J'avais en moi des excès accumulés et j'ai tout donné à Super. Je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. C'était vraiment urgent. J'aurais fini en tôle, probablement. Quand je le promenais, je me sentais quelqu'un. Parce que j'étais tout ce qu'il avait au monde. Je l'aimais tellement que je l'ai même donné. J'avais déjà 9 ans ou autour et on pense déjà à cet âge. Sauf peut-être quand on est heureux. Il faut dire aussi, sans vouloir vexer personne, que chez Madame Rosa, c'était triste, même quand on a l'habitude. Alors lorsque Super a commencé à grandir pour moi au point de vue sentimental, j'ai voulu lui faire une vie. C'est ce que j'aurais fait pour moi-même si c'était possible. Je vous ferai remarquer que ce n'était pas n'importe qui non plus, mais un caniche. Il y a une dame qui a dit « Oh, le beau petit chien !» et qui m'a demandé s'il était à moi et à vendre. J'étais mal fringué, j'ai une tête pas de chez nous, et elle voyait bien que c'était un chien d'une autre espèce. Je lui ai vendu Super pour 500 francs, et il faisait vraiment une affaire. J'ai demandé 500 francs à la bonne femme parce que je voulais être sûr qu'elle avait les moyens. Je suis bien tombé. Elle avait même une voiture avec chauffeur et elle a tout de suite mis Super dedans, au cas où j'aurais des parents qui allaient gueuler. Alors maintenant, je vais vous dire, parce que vous n'allez pas me croire. J'ai pris les 500 francs et je les ai foutus dans une bouche d'égout. Après, je me suis assis sur un trottoir et j'ai chialé comme un veau avec les poings dans les yeux, mais j'étais heureux. Chez Madame Rosa, il n'y avait pas la sécurité et on tenait tous qu'à un fil. Avec la vieille malade, sans argent et avec l'assistance publique sur nos têtes. Et c'était pas une vie pour un chien. Quand je suis rentré à la maison et que je lui ai dit que j'ai vendu Super pour 500 francs et que j'ai foutu l'argent dans une bouche d'égout, Madame Rosa a eu une peur bleue. Elle m'a regardé et elle a couru s'enfermer à double clé dans sa piole. Après ça, elle s'enfermait toujours à clé pour dormir. Des fois que je lui couperais la gorge encore une fois. Les autres mômes ont fait un raffut terrible quand ils ont su, parce qu'ils n'aimaient pas vraiment Super. C'était seulement pour jouer. La première chose que Madame Rosa a fait le lendemain, c'était de me traîner chez le docteur Katz pour voir si je n'étais pas dérangé. Madame Rosa voulait me faire une prise de sang et chercher si je n'étais pas syphilitique comme arabe. Mais le docteur Katz s'est foutu tellement en colère que sa barbe tremblait. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'il avait une barbe. Il a engueulé Madame Rosa quelque chose de maison et il lui a crié que c'était des rumeurs d'Orléans. Les rumeurs d'Orléans, c'était quand les juifs dans le prêt-à-porter ne droguaient pas les femmes blanches pour les envoyer dans les bordels et tout le monde leur en voulait. Ils font toujours parler d'eux pour rien. Madame Rosa était encore toute remuée.
Comment ça s'est passé exactement?
Il a pris 500 francs et les a jetés dans une bouche d'égout.
De sa première crise de violence?
Madame Rosa me regardait sans répondre. Et j'étais bien triste. J'ai jamais aimé faire de la peine aux gens. Je suis philosophe. Il y avait derrière le docteur Katz un bateau à voile sur une cheminée avec des ailes toutes blanches et comme j'étais malheureux, je voulais m'en aller ailleurs, très loin, loin de moi. Et je me suis mis à le faire voler. Je montais à bord et traversais les océans d'une main sûre. C'est là, je crois, à bord du voilier du docteur Katz, que je suis parti loin pour la première fois. Jusque-là, je ne peux pas vraiment dire que j'étais un enfant. Encore maintenant, quand je veux, je peux monter à bord du voilier du docteur Katz et partir loin seul à bord. Je n'en ai jamais parlé à personne. Et je faisais toujours semblant que j'étais là.
Docteur, je vous prie d'examiner bien cet enfant. Vous m'avez défendu les émotions à cause de mon cœur. Et il a vendu ce qu'il avait de plus cher au monde. Et il a jeté 500 francs dans l'égout. Même à Auschwitz, on faisait pas ça.
Le docteur Katz était bien connu de tous les juifs et arabes autour de la rue Bisson pour sa charité chrétienne. Et il soignait tout le monde du matin au soir et même plus tard. J'ai gardé de lui un très bon souvenir. C'était le seul endroit où j'entendais parler de moi et où on m'examinait comme si c'était quelque chose d'important. Je venais souvent tout seul. Pas parce que j'étais malade, mais pour m'asseoir dans sa salle d'attente. Je restais là un bon moment. Il voyait bien que j'étais là pour rien et que j'occupais une chaise alors qu'il y avait tant de misère dans le monde. Mais il me souriait toujours très gentiment et n'était pas fâché. Je pensais souvent en le regardant que si j'avais un père, ce serait le docteur Katz que j'aurais choisi.
Il aimait ce chien comme c'est pas permis. Il le tenait dans ses bras même pour dormir. Et qu'est-ce qu'il fait? le vend et il jette l'argent. Cet enfant n'est pas comme tout le monde, docteur. J'ai peur d'un cas de folie brusque dans sa famille.
Je peux vous assurer qu'il ne se passera rien, absolument rien, madame Rosa.
Je me suis mis à pleurer. Je savais bien qu'il ne se passerait rien, mais c'était la première fois que j'entendais ça ouvertement.
Il n'y a pas lieu de pleurer, mon petit Mohamed. Mais tu peux pleurer si ça te fait du bien. Est-ce qu'il pleure beaucoup ?
Jamais, jamais il pleure, cet enfant-là. Et pourtant, je sais que je souffre.
Eh bien, vous voyez que ça va déjà mieux. Il pleure, il se développe normalement. Vous avez bien fait de me l'amener, madame Rosa. Je vais vous prescrire des tranquillisants. C'est seulement de l'anxiété chez vous.
Quand on s'occupe des enfants, docteur, il faut beaucoup d'anxiété. Sans ça, ils deviennent des voyous.
En partant, on a marché dans la rue main dans la main. Madame Rosa aime se faire voir en compagnie. Elle s'habille toujours longtemps pour sortir parce qu'elle a été une femme et ça lui est resté encore un peu. Elle se maquille beaucoup, mais ça sert plus à rien de vouloir se cacher à son âge. Elle a une tête comme une vieille grenouille juive avec des lunettes et de l'asthme. Pour monter l'escalier avec les provisions, elle s'arrête tout le temps et elle dit qu'un jour elle va tomber morte au milieu, comme si c'était tellement important de finir tous les 6 étages. Une nuit, Madame Rosa a hurlé, ça m'a réveillé. Elle a allumé et j'ai ouvert un œil. Elle avait la tête qui tremblait et des yeux comme si elle voyait quelque chose. Puis elle est sortie du lit, elle a mis son peignoir et une clé qui était cachée sous l'armoire. Elle est allée dans l'escalier et elle l'a descendue. Je l'ai suivie parce qu'elle avait tellement peur que je n'osais pas rester seule. Madame Rosa descendait l'escalier tantôt dans la lumière, tantôt dans le noir. La minuterie chez nous est très courte pour des raisons économiques. À un moment, quand le noir est tombé, c'est moi qui l'ai allumé comme un con. Et Madame Rosa, qui était un étage plus bas, a poussé un cri. Elle a cru qu'il y avait là une présence humaine. Elle a regardé vers le haut, et puis vers le bas, et puis elle a recommencé à descendre, et moi aussi. Mais je touchais plus à la minuterie. On se faisait peur tous les deux avec ça. Je ne savais pas du tout ce qui se passait, encore moins que d'habitude. Et ça fait toujours encore plus peur. J'avais les genoux qui tremblaient, et c'était terrible de voir ces juifs qui descendaient les étages avec des Russes de Sioux, comme si c'était plein d'ennemis et encore pire. Quand elle est arrivée au rez-de-chaussée, Madame Rosa n'est pas sortie dans la rue. Elle a tourné à gauche vers l'escalier de la cave, où il n'y a pas de lumière et où c'est le noir même en été. Quand Madame Rosa a pris cet escalier, j'ai cru vraiment que c'était la fin des haricots et elle était devenue macaque. Et j'ai voulu courir réveiller le docteur Katz. Mais j'avais à présent tellement peur que je préférais encore rester là et ne pas bouger. J'étais sûr que si je bougeais, ça allait hurler et sauter sur moi de tous les côtés, avec des monstres qui allaient enfin sortir d'un seul coup au lieu de rester cachés, comme ils le faisaient depuis que j'étais né. C'est alors que j'ai vu un peu de lumière. Ça venait de la cave et ça m'a un peu rassuré. Les monstres font rarement de la lumière. C'est toujours le noir qui leur fait le plus de bien. Je suis descendu dans le couloir qui sentait la pisse et même mieux, parce qu'il n'y avait qu'un WC pour sang dans le foyer noir à côté et il faisait ça où il pouvait. La cave était divisée en plusieurs et une des portes était ouverte. C'est là que Madame Rosa était entrée. Et c'est de là que sortait la lumière. J'ai regardé. Il y avait au milieu un fauteuil rouge complètement enfoncé, crasseux et boiteux. Et Madame Rosa était assise dedans. Les murs, c'était que des pierres qui sortaient comme des dents et ils avaient l'air de se marrer. Sur une commode, il y avait un chandelier avec des branches juives et une bougie qui brûlait. Il y avait, à ma grande surprise, un lit dans un état bon à jeter, mais avec matelas, couverture et oreiller. Il y avait aussi des sacs de pommes de terre, un réchaud, des bidons et des boîtes à carton pleines de sardines. J'étais tellement étonné que je n'avais plus peur. Sauf que j'avais le cul nu et que je commençais à me sentir froid. Madame Rosa est restée un moment dans ce fauteuil miteux et elle souriait avec plaisir. Elle avait pris un air malin et même vainqueur. C'était comme si elle avait fait quelque chose de très astucieux et de très fort.